In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Got gun, Hulk left slot,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky,
Fever left, 75, Katie,
Omaha,
we good?
Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Go ahead, goal line, touchdown, touchdown!
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 716 du podcast Touchdown Actuel à Mattei. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés, la fine fleur des consultants NFL télévisuels, puisque à ma gauche, numériquement, puisqu'il est sur un écran, Raphaël Masmejean, consultant lors du Divisional Weekend sur W9. Bonjour Raphaël Masmejean.
Salut Alain, salut à tous.
Et à ma droite, Grégory Richard, consultant lors du Divisional Weekend sur W9. Bonjour Grégory.
Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous.
Comment ça va tout le monde?
Très bien.
Bien. Écoute, bon. En pleine période de phase finale, on est au taquet. Hein.
C'est vrai que là, on est quand même dans le show du show, messieurs. On va parler de deux matchs aujourd'hui, très simple. On débrief vraiment au fur et à mesure. Donc, on va parler de deux matchs et on va commencer sans plus tarder avec celui entre les Tampa Bay Buccaneers 32, Philadelphia Eagles 9. Les Eagles étaient à 10 victoires et une défaite. Ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, dont cette rencontre de play-off. Une rencontre dans laquelle ils n'ont jamais semblé avoir leur chance. Une rencontre dans laquelle ils ont manqué des plaquages en pagaille, où les coachs ne se sont pas ajustés, où ils n'ont pas été efficaces au sol. C'est quand même l'écroulement de cette année, que les Buccaneers m'excusent, mais on est un peu obligé de commencer par les Eagles. Est-ce qu'ils ont abandonné cette fin de saison? Est-ce que les coachs sont mauvais? Ou est-ce que c'est un problème d'effectif et que les joueurs sont pas assez bons? Grégory, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je dirais pas que l'effectif n'est pas assez bon. Justement, c'est ce qui, moi, m'interroge un peu sur la manière dont les choses se sont passées, parce que tu as à peu près énuméré certaines clés fondamentales de ces dernières semaines qui sont beaucoup liées malgré tout au coaching. Beaucoup de problématiques, je trouve, en termes de préparation. Beaucoup de difficultés à analyser défensivement ce qui a été mis en place chez les Eagles cette année, alors qu'on parle quand même d'une équipe qui avait quasiment battu le record de sacs sur une saison. J'exagère à peine parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'était 70 sacs l'année dernière.
Je pense qu'ils l'ont battu.
Ils l'ont battu, c'est ça. Ouais, j'avais un doute. Je voulais pas trop m'avancer et dire de bêtises, mais voilà, on était quand même sur une saison record à ce niveau-là l'année dernière. Et là, cette année, qu'on se retrouve avec des telles difficultés à dominer au niveau des lignes et surtout à être discipliné, notamment d'un point de vue très basique qu'est le plaquage. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer, surtout sur un match de play-off et surtout dans une situation où tu peux potentiellement fermer des bouches, ce qu'aime manifestement faire Nick Sirianni depuis qu'il est arrivé du côté de Philadelphie. Donc il y a des points qui m'interrogent un peu et en effet, le coaching a une grosse part de responsabilité là-dedans, le head coach en tête.
Petite précision, 70 sacs l'an dernier, c'est pas tout à fait le record. Il y en a eu 71 pour les Vikings en 89 et 72 pour les Bears en 84 en seulement 16 matchs.
En tout cas, c'est une barre significative.
Voilà, mais c'était une. Ils avaient 15 sacs de plus que la deuxième équipe l'an dernier, hein, donc c'était quand même monumental. Raphaël, Grégory a parlé de Nick Sirianni. On revient vers les coachs, donc.
Oui, on revient vers les coachs. Je suis assez d'accord sur le côté effectif. Cet effectif manque pas de talent. On a, enfin, c'est quand même un effectif qui était champion NFC l'an dernier au Super Bowl. C'est un effectif qui était classé parmi les tout meilleurs avant la saison en termes de qualité. Alors oui, au fur et à mesure de la saison, il y a eu quelques blessures, notamment sur l'escouade de linebacker, et on a vu que ça a été un des problèmes potentiels là en termes de plaquage cette semaine et depuis plusieurs semaines. Il y a eu aussi sans aucun doute des joueurs qui ont un peu sous-performé. Je pense par exemple à un Hassan Reddick qui l'an dernier avait été monstrueux et qui là cette semaine, enfin cette année finalement à l'image de tous les Eagles, a progressivement décliné.
Il y a eu beaucoup de paris ratés, Raph, si je peux me permettre aussi. Hein. Shaquille Lennard, Kevin Byard, c'est quand même des...
Des coups, ouais. Quoi. Voilà. Byard, là, c'est quand même assez humilié, on va dire, en termes de qualité de plaquage sur ce match. Donc voilà, il y a des joueurs qui ont également sous-performé, et de manière un peu étonnante. Donc t'es forcément obligé d'interroger cette sous-performance par rapport aussi au coaching qui a pas su, à un moment, trouver les clés. Et sur le match d'hier, si on part, par exemple, sur le côté attaque, l'incapacité de Philadelphie à s'adapter au blitz de Tampa Bay, tu peux pas arriver à un match, dans un match de playoff comme ça en n'ayant aucune solution, en laissant en permanence Jalen Hurts en shotgun quasiment sur toutes les situations de passe avec personne pour l'aider à gérer le blitz. Enfin, c'était une catastrophe de coaching, certain. Mmh.
Brian Johnson, le coordinateur offensif, en effet, il y a eu 53% de blitz par Tampa. Grégory, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
Alors, je vais plus revenir sur la défense, mais en tout cas sur l'attaque, oui, on peut en effet analyser là-dessus. C'est vrai que malheureusement, là où ça m'interroge un peu, c'est qu'on a quand même affaire à une équipe où il y a quand même un nombre de cadres assez affirmés. Je pense qu'on peut quand même en sortir facile 5-6 quand même, dont on peut se dire que c'est quand même des leaders de vestiaire. Et le fait de voir que malgré ce, bah, il y a un relâchement total, une nonchalance permanente, que ce soit en attaque ou en défense, sur l'ensemble de la rencontre d'hier, c'est quand même assez symptomatique. Il y a notamment cette action, puisqu'on parle de l'attaque, en fin de troisième quart-temps. Et Jalen Hurts, c'est un peu le catalyste de tout ça malgré tout. Et forcément, il l'est quand Philadelphie était au beau fixe, puisqu'on en parlait comme MVP quand les Eagles avaient la fiche de 10-1, il me semble, dont tu parlais tout à l'heure. Malheureusement, il l'est aussi sur cette fin de saison, et notamment sur ce drive absolument calamiteux, où il s'efface littéralement sur la tentative de plaquage de l'avant de Tédévit sur DeAndre Swift. Et derrière, il fait cette espèce d'improvisation où il recule limite de 15-20 yards pour concéder ce safety absolument bête, alors qu'il aurait pu se débarrasser du ballon bien, bien avant. Et malheureusement, c'est des choses où on se dit que ouais, c'est là où la discipline pose problème. Et que pour moi, vraiment, le mal est extrêmement profond. Et pour en revenir un petit peu à la défense, et après je laisserai la parole à Raph, mais j'ai du mal à me demander dans quelle mesure, à quel degré, cette histoire de coordinateur défensif, par exemple, n'a pas posé problème pendant la saison aux Eagles. Parce que, voilà, il y avait cette espèce de coordinateur officiel, officieux, on change un petit peu les choses et on a l'impression qu'en fait, personne n'est solidaire, enfin, vis-à-vis de son coéquipier, en fait. Et c'est ça qui rend cette copie absolument catastrophique. Sur les 8 derniers matchs de la saison des Eagles, il y a 6 matchs où l'adversaire a quasiment, enfin, à au moins 400 yards au total, ou quasiment 400, je crois que c'était le cas du match face à Dallas. Dans de telles proportions, tu peux pas te dire que l'équipe a démissionné, notamment défensivement, et malheureusement, voilà, vous commencez par l'attaque, mais ça se reflète aussi malheureusement sur le joueur principal de cette équipe-là, qui est Jalen Hurts.
Je rejoins le côté collectif, abandon un peu collectif assez étonnant, et donc le coaching encore une fois qu'il y a derrière, c'est Ray Lewis dans le Manning Cast, l'émission des frères Manning qui hier diffusait le match, où Ray Lewis expliquait bien que le principe d'une défense, c'est aussi de créer des schémas de plaquage collectifs. Et lui, il symbolisait ça par, en gros, l'expression, je la francise, mais c'était mettre l'adversaire en coupe. Bon, en fait, le principe, c'est que chaque coéquipier prenne un angle de plaquage qui, en fait, enferme le joueur qui a le ballon pour l'empêcher d'avancer. Et là, ce que lui débriefait, c'est que c'est pas du tout le cas du côté des Eagles. Tout le monde court un peu dans tous les sens comme des poulets sans tête, de manière individuelle. Et tu te retrouves avec des joueurs qui, en fait, une fois qu'ils ont cassé un plaquage, il n'y a absolument pas de soutien derrière. Il n'y a pas cette fameuse coupe dont Ray Lewis parlait. Enfin, voilà. Et c'est assez significatif de ce que Grégory disait. Donc, faillite collective assurément du côté de Philadelphie.
Il y a un joueur qui est assez symptomatique de ça, également en défense, c'est Avante Maddox. Il faut quand même voir l'action du touchdown de David Moore où il shoot quand même deux coéquipiers en essayant d'intervenir d'abord sur le deuxième puis sur le dernier rideau. Et puis il y a cette action où il a l'air totalement à l'abandon, totalement en mode démission sur la réception de Chris Godwin. Tu peux pas, alors je sais que c'est pas son poste safety qu'il a remplacé en pompier de service, mais quand déjà t'as un Kevin Byard qui donne aucune satisfaction depuis son arrivée en provenance de Tennessee, mettre un Avante Maddox comme ça, qui a la chasse aux papillons sur chaque drive offensif de Tampa Bay, ça devient trop compliqué et malheureusement ça aide pas une équipe qui est sous respiration artificielle, si je peux parler ainsi, quoi.
Pour finir sur les coachs, quand même, on rappelle que c'est une équipe qui avait perdu à la fois son coordinateur offensif et son coordinateur défensif pendant l'intersaison. Quand on voit les résultats qu'ont eu les deux, avec des Colts très honorables d'un côté, des Cardinals qui ont été loin d'être ridicules alors qu'on les pensait quand même pourtant au fond du trou, on peut se dire aussi qu'ils ont pas vraiment, ils se sont pas remis de ça non plus, Raphaël, apparemment.
Effectivement, l'adaptation a eu l'air d'être plus compliquée. On s'était dit que Sirianni restant et avec finalement des promotions internes, on avait une sorte de continuité de passage de témoin et que ça allait se gérer facilement. Et cela dit, le début de saison laissait un peu entendre ça, même si c'était jamais parfait du côté des Eagles. Il y avait quand même des victoires, il y avait une sorte de solidité collective qui transpirait un peu de l'effectif. Donc et tout d'un coup, tout s'est écroulé. Donc oui, à quel point à un moment l'an dernier, un Station, un Gannon, par leurs idées aussi, ont pu apporter justement des ajustements. Ce que n'ont pas fait clairement les deux coordinateurs cette saison. Enfin, catastrophe.
Les idées, l'ajustement et la présence, parce que mine de rien, les coordinateurs sont quand même très au contact des joueurs. Vrai, on parlait de joueurs qui démissionnent, ils sont peut-être encore plus au contact que le coach principal. Et là, on voit qu'il y a peut-être un truc qui s'est déconnecté aussi au fil de la saison.
Effectivement, quand tu vois comment Gannon a semblé souder un peu l'effectif des Cardinals, qui était, tu l'as dit, qui était. Alors la saison n'est pas très bonne, ils finissent avec 4-5 victoires, je sais plus, mais. Malgré tout, ils étaient promis à presque zéro victoire par beaucoup, et tu sens que l'effectif a cru en Gannon et ce que Gannon proposait. Donc, oui, je te rejoins, quand t'as plus ce genre de type en bord de terrain, quelle est la part des autres coordinateurs dans cette capacité à remobiliser tout le monde? Ça a sans doute joué, ouais.
Je reviens un peu sur le match aussi et sur les joueurs. On a parlé d'Avante Maddox dans la couverture, Darius Led, James Bradbury, Kevin Byard. Ils ont tous plus de 30 ans. Ils ont tous été exposés un petit peu aussi. Il y a même des problèmes là pour le futur qu'ont l'air de se poser, Grégory.
Oui, très clairement. Il va falloir faire des choix de toute façon du côté des Eagles, parce qu'il va forcément y avoir des gros contrats qui vont arriver. Mais en effet, je ne suis pas sûr que de toute façon ils comptaient sur Maddox par exemple pour l'avenir. On sait que Bradbury, il l'avait aussi réconforté dans le sens où, voilà, dans l'idée de on ne tient pas rigueur éventuellement de ce qui s'est passé au Super Bowl perdu face aux Chiefs. Là, ça le refragilise un petit peu de nouveau. Donc, c'est sûr que, certes, même si le pass rush n'était pas aussi flamboyant que l'année passée, je veux dire, il était quand même suffisamment respectable pour que le backfield défensif ne soit pas autant à l'agonie cette saison. Donc oui, va falloir en effet voir ce qu'il en est. Il y a la question sur Kevin Byard, encore une fois, on a laissé partir, c'est quoi, c'est un troisième tour et Terrell Edmonds, je ne sais plus, qu'ils ont envoyé du côté de Tennessee.
Ouais.
Mais ils peuvent faire une économie de quasiment 14 millions de dollars en le coupant pendant l'intersaison. Donc ça va forcément être un point à aborder, savoir si on lui laisse une deuxième chance malgré le gros contrat qui peut éventuellement peser l'année prochaine. Mais c'est sûr que ce backfield défensif, ça va être un focus tout particulier, je pense, au cours de l'intersaison à venir du côté de Philly.
Je reviens un peu sur le match, ils sont menés 16-9 à la pause. Raphaël, est-ce qu'il y a un truc qu'ils auraient pu changer pour gagner? Revenons sur ce match en particulier.
C'est vrai qu'à la pause, même si l'impression n'est pas terrible, ils sont quand même dans le match. Tu te dis qu'il ne faut peut-être pas grand-chose pour un peu bousculer un peu plus, on va dire, ce Tampa. Il y a quand même un très bon Devonta Smith sur ce match, qui est peut-être le seul joueur du côté de Philadelphie qui sauve vraiment la face. Ouais, ils auraient pu avec des ajustements, en revenant en attaque, en apprenant à s'ajuster sur le blitz, en courant un peu plus. Moi, je trouve quand même alors la course était peut-être pas si efficace que ça, mais je trouve qu'ils l'ont beaucoup abandonné. Quand on connaît la qualité de cette ligne offensive, je trouve que ça a été quand même beaucoup abandonné. Oui, des ajustements, c'est sûr et certain.
Ils ont couru 15 fois contre 35 passes. Ils étaient à 2,8 yards par course, en effet. Tu l'as rappelé, Devonta Smith, 8 réceptions, 148 yards. Il a complètement survolé ce match en l'absence d'AJ Brown, on le rappelle aussi. Jalen Hurts, on l'a pas dit, était à 25 sur 35, 250 yards. Un touchdown, aucune interception, mais un safety provoqué. Et il a encaissé aussi 3 sacks. Greg, t'aurais fait quoi à leur place à la mi-temps?
changeant un peu ce qu'a dit Rav, j'aurais essayé de courir un peu plus, ou au moins peut-être d'impliquer plus les running backs, notamment sur des screen pass, en voyant justement que l'équipe avait tendance à, l'équipe adverse avait tendance à énormément blitzer. De toute façon, oui, clairement, il y a des ajustements qui n'ont pas été faits. Tu peux pas te retrouver à 0-9, à 0 sur 9 en troisième tentative, s'il y avait un tant soit peu de choses correctes. Mais en tout cas, oui, j'aurais peut-être essayé de faire en sorte de mettre un peu plus cette, ce front seven de Tampa Bay un petit peu sur le qui-vive et pas forcément leur dire, surtout quand tu es censé avoir une ligne offensive aussi dominante que celle des Eagles, bah allez-y, blindez, et puis bah on verra, on essaiera de se débrouiller et d'improviser en fonction. Voilà, on a laissé un peu trop, je trouve, de part de responsabilité là-dedans aussi à Jalen Hurts. C'est peut-être aussi moi ce qui me pose problème, sachant qu'en plus, t'as un Jalen Hurts qui est quand même légèrement touché au doigt, notamment depuis la semaine dernière. Donc, le mettre comme ça, vraiment en première ligne, même si c'est censé être ton quarterback, ton franchise quarterback désormais, le mettre comme ça en première ligne, alors qu'en effet, ils sont menés que d'un touchdown. En fin de troisième quart-temps et que bah avant le safety tu peux quand même te dire que globalement tu peux revenir bon an mal an sur un match où Tampa Bay me paraît quand même relativement prenable. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui a symbolisé derrière tout cet agacement. On a vu par exemple un Dallas Goedert qui a pas hésité à être très vocal et limite à s'en prendre verbalement à son quarterback. Je pense que voilà, il y a des appels de jeu, des décisions qui ont été prises par le coaching et de fait par Jalen Hurts qui ont accentué en effet ces problématiques offensives et où on s'est enfermé dans une espèce de caricature de la part de Nick Sirianni et de son coordinateur Brian Johnson.
On va terminer sur Philadelphie avec une question simple. Est-ce que Nick Sirianni est en danger ? Est-ce qu'il doit être en danger, Raphaël ?
Je sais pas s'il doit être en danger, mais en tout cas, je pense qu'il l'est, pour le coup. Parce que là, cette faillite collective, forcément, ça va interroger du côté du front office des Eagles qui ont quand même pas hésité à virer Doug Peterson quand ça s'est mal passé alors qu'il avait ramené un Super Bowl à l'équipe. Donc je pense que si Howie Roseman et la direction pensent que Sirianni a perdu son vestiaire, je les vois pas être très attentistes là-dessus.
Tu penses qu'il va être viré du coup ?
Je sais pas.
C'est pronostic. Hein, là,
Dès cette année, ouais. Je crois pas. Mais on n'est pas en confidence avec les joueurs. Et si t'as 2-3-4 qui viennent dans le bureau de Howie Roseman dire on veut plus être entraîné par lui, je sais pas si ça bascule pas quand même.
Grégory.
Oui, je suis assez d'accord là-dessus. Ça me paraît un petit peu immédiat. Ça me paraîtrait en tout cas céder à une forme de panique de la part du front office de dire bon bah voilà, la fin de saison s'est mal passée et donc du coup en conséquence, malgré l'année dernière, bah on fait table rase de tout et puis bah on passe à autre chose. Ça me paraît un peu extrémiste. Il me semble qu'il y a d'autres coachs dans la division qui me paraissent beaucoup plus menacés au sortir de ce premier tour de play-off. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc non, je pense qu'on peut lui laisser au moins une année. Après, c'est sûr que c'est jamais anodin en NFL d'avoir des chutes libres comme ça en termes déjà de fiches, mais en termes de prestations globales. Et ça en dit long, en effet, sur potentiellement le fait que le vestiaire ait peut-être perdu par le head coach. Donc, il va falloir, comme je disais, un gros travail au niveau de l'intersaison pour réussir à remobiliser tout ça. Peut-être la question va se poser sur les coordinateurs et c'est surtout principalement en défense, je pense, qu'il va falloir faire des ajustements. Ça va peut-être être le fusible pour Nick Sirianni pendant cette intersaison. Mais à mon sens, il a au moins peut-être une année pour essayer de prouver que c'était qu'un accident.
Bon, on a beaucoup parlé évidemment des vaincus, mais quand même, il y a un beau vainqueur. C'est les Buccaneers, une des belles surprises des playoffs. Il y en a plusieurs, hein, mais vraiment là, ils en font partie. Deuxième victoire en carrière pour Baker Mayfield en playoffs. On a beaucoup parlé des coachs. Todd Bowles et ses coordinateurs ont quand même fait un bon boulot sur ce match, Raphaël.
Oui, bon boulot du coaching. Notamment, Tampa Bay a bien attaqué le milieu du terrain, où c'était assez dépeuplé côté linebacker. Avec quand même un Kay Doughton, le tight end, qu'on avait presque jamais autant vu de la saison, j'ai envie de dire. Avec des jeux assez verticaux quand même, une vraie verticalité dans les appels de jeu pour attaquer le milieu de terrain. Et ça a plutôt bien fonctionné, donc c'était bien vu de leur part. Tu l'as dit, vraiment bon coaching de la part de Todd Bowles, qui finalement est peut-être un bon profil pour gérer un peu une équipe comme ça de vétérans, pas forcément les mecs les plus talentueux de la ligue, mais un peu des bagarreurs, des accrocheurs à l'image de Mayfield. Et voilà.
Grégory, bon boulot aussi, 36 passes pour 29 courses, on parlait d'équilibre notamment tout à l'heure. Baker Mayfield est à 22 sur 36, 337 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Beaucoup de ballons relâchés dans ce match, par contre au niveau des receveurs, ils auraient peut-être pu se détacher plus vite d'ailleurs à cause de ça. Et ça, pourtant il a déjà des belles stats, hein, mais les stats de Baker Mayfield auraient pu être encore plus costauds. Grégory, Baker Mayfield c'est un bon quarterback, un très bon quarterback, c'est quoi? Il a quand même fait vachement remonter sa cote cette année-là.
Clairement. Alors après, c'est sûr qu'on retrouve un petit peu le côté Baker Mayfield de ses premiers mois du côté de Cleveland, ce côté un peu, dans mon sillage, il dégage quand même malgré tout cette espèce de confiance qu'on avait totalement perdue chez lui au cours de ces dernières années du côté de l'Ohio. Après, tu l'as dit, c'est vrai que sa performance, c'est un peu analysée, on peut l'analyser de deux manières, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est sûr qu'il tombe sur une défense qui est peut-être trop permissive, encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de yards après réception de la part de ses cibles, notamment sur les touchdowns inscrits par Tampa. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, il y a aussi beaucoup de ballons qui sont lâchés et qui auraient pu permettre aux Bucks de continuer de faire avancer les chaînes, hein, ce qui a été une constante tout au long de cette rencontre. Donc, très honnêtement, je trouve qu'en effet, pour revenir à la question sur Todd Bowles, je trouve qu'il y a eu un travail intelligent. On sait que c'est un spécialiste défensif et qu'il l'a déjà prouvé dans sa carrière. Il a fait totalement confiance à Dave Canales, son coordinateur offensif. Et jusque là, en effet, il n'y a pas une semaine où c'est pas forcément où le play calling peut être remis en cause à mon sens. Mais Mayfield sortait deux prestations quand même un peu plus poussives pour finir la saison régulière contre les Saints et contre les Panthers. Tant mieux pour Tampa, il se ressaisit au meilleur des moments avec encore un jeu au sol qui l'a bien aidé à alterner. Maintenant, faudra que ce soit confirmé, que ce soit pas juste sur une année, mais déjà le voir revenir à un niveau qu'on voyait de lui il y a quelques années de ça, c'est quand même tout sauf une mauvaise chose pour l'équipe de Floride.
Raphaël, est-ce que ça te semblait solide ce que tu as vu de Baker Mayfield et durable?
Oui, je pense que c'est solide et durable. Il a montré sur plusieurs matchs cette saison, notamment l'enchaînement de victoires qu'ils ont eu, les 4-5 victoires à un moment de la saison qui les a complètement relancés en playoff. On voit qu'il y avait une capacité de sa part à s'accrocher là-dessus. Je pense qu'avec le bon play calling, ils sont capables de rester dans ce genre de dynamique. Après, je pense malgré tout qu'il reste un peu limité et que ça pourra jamais aller beaucoup plus loin que ça. Mais si ça tourne bien, ce genre de niveau, ça peut aider à avancer, aller en playoff comme ils le font, à gagner des matchs.
On est donc plutôt confiant. Il y a eu une vraie profondeur aussi. Cade Otton est leur meilleur receveur à 8 réceptions, 89 yards. Trey Palmer a une réception, mais c'est un touchdown de 56 yards. Rachaad White a encore été très impliqué. Il a 18 ballons au sol. Et au final, Mike Evans n'a que 3 réceptions. Chris Godwin en a 4. C'est intéressant aussi quand même cette profondeur, Raphaël.
Oui, c'est intéressant parce que ça montre qu'on est sorti, en tout cas, qu'on ne base pas tout que sur Mike Evans, comme ça a pu l'être peut-être en début de saison, où vraiment on avait un Mike Evans omniprésent pour le coup dans le jeu offensif, et c'était pas forcément avec succès parce que c'est une période où Tampa ne gagnait pas forcément beaucoup de matchs. Depuis qu'on a un White notamment beaucoup plus efficace au sol, mais aussi en sortie de backfield à la réception, alors sur ce match c'est pas trop le cas, mais sur les dernières semaines c'était le cas. Godwin aussi va un peu mieux. Comme tu le dis, tu as une multiplication d'armes sur lesquelles jouer pour vraiment profiter du meilleur match-up possible. Ça ne peut être qu'un plus pour la suite.
Grégory, impressionné ou pas alors par cette attaque de Tampa?
Impressionné globalement sur la saison, oui, encore une fois, par rapport à notamment ce qu'on voit depuis la deuxième partie de saison, parce que c'est vrai qu'au début, ça a mis quand même un petit peu de temps à ronronner, on dira, pour mettre tout le monde un petit peu à l'unisson. Après, comme je disais, c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est de savoir si on peut avoir un visage offensif de qualité de manière constante. C'est presque ça la principale interrogation. En gros, quand tout sourit pour Tampa, c'est une équipe qui est pas bonne à jouer, parce que Raph le rappelait, ils étaient sur une bonne série, et j'ai souvenir par exemple du match contre les Jaguars en saison régulière où pareil, ils ont été sans pitié pour Jacksonville.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Donc voilà, quand tout sourit, c'est bien, mais il faudra voir quand il y aura le... faut voir en cas de petits grains de sable, et on a vu que quand il y en a eu, voilà, j'étais quelques matchs en fin de saison régulière, ça n'a pas été toujours évident de remettre un petit peu de rythme offensivement, donc voilà, c'est le petit bémol. Après, encore une fois, c'est une équipe qu'on n'attendait même pas forcément en play-off cette saison, donc voilà, le fait qu'ils surperforment cette année, à mon sens en tout cas, c'est déjà une très bonne chose, et en effet, c'est de bon augure pour la suite, quel que soit leur parcours pour la suite de ces phases finales.
Et la défense y est pour quelque chose aussi. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, 0 sur 9 en troisième tentative pour les Eagles. Jalen Hurts qui a quand même été souvent sous pression. Au final, là, je vous ai beaucoup cuisiné sur l'attaque, mais c'est quand même la défense leur point fort, non, Raphaël? J'ai l'impression que c'est l'élément le plus stable.
Ouais, oui. Là, effectivement, cette défense, notamment contre la course, hein, moi que j'ai trouvé encore une fois extrêmement solide. Alors, il y a eu peu de courses, mais les quelques courses qu'il y avait à défendre, ça a été globalement bien défendu. Cette capacité à avoir un backfield et ça a notamment été très utile sur le blitz, hein, un backfield défensif très polyvalent, capable d'aller chasser le quarterback adverse aussi bien ou quasiment presque aussi bien que de couvrir la passe, on va dire ça comme ça, ça aide, et c'est à l'image d'un Antoine Winfield encore excellent sur ce match et excellent toute la saison. Donc oui, cette défense, et je sais pas si, comment dire, c'est la partie de l'équipe la plus constante, ça c'est clair et net. C'est celle dont peut-être le plancher est le plus haut par rapport à l'attaque. Par contre, sur ce match, elle les a forcément aidés, mais je sais pas si elle est suffisamment forte pour les faire aller plus loin dans ces playoffs, tu vois, par contre. Mais ça sera sans doute pour le podcast de demain.
Grégory, est-ce que tu penses que cette défense peut leur permettre d'aller plus loin que ça dans ces playoffs? Sans manger sur la preview, mais par rapport à ce que tu as vu là, mine de rien, bon. Philadelphie n'était pas totalement en faillite offensive non plus cette année, même si ça évidemment c'était pas incroyable ces dernières semaines, mais voilà, ça reste quand même une performance intéressante. Ils sont accrocheurs, ils connaissent leurs qualités, ils jouent physique.
Oui,
et
oui,
c'est
bah,
déjà c'est... bien de connaître ses qualités et de jouer dessus.
Oui, c'est sûr que je m'arrête beaucoup sur les prestations offensives de la fin de saison régulière, mais globalement la défense, je trouve, ces dernières semaines est assez régulière. Ils concèdent quand même très peu de points. Sur les deux derniers matchs, on est à moins de 10 points concédés en cumulé. Donc même si c'est pas contre des attaques en pleine forme, voilà, ça dénote aussi que ce groupe défensif sur lequel on a beaucoup misé, même quand ça souriait sous l'ère Tom Brady, on a investi beaucoup de choix de draft, notamment sur le front seven, et on voit qu'aujourd'hui c'est assez concluant parce qu'il y a toujours cette capacité à générer de la pression. On voit des joueurs du backfield, Raph citait Winfield, on a un gros match également de Jamel Dean ce week-end, donc il y a certains cadres par exemple qui commencent aussi à sortir du bois quand vraiment Tampa en a besoin. Donc c'est sûr que autant je trouve que l'attaque est assez inconstante sur les dernières semaines et sur l'ensemble de la saison, même si, comme je disais, c'est plus en début d'exercice qu'on s'interrogeait. Autant défensivement, je trouve qu'il y a quand même peu de choses à dire. Il y a quelques matchs où ils sont passés à côté. Je pense notamment au match face aux Texans, mais quand on voit la saison de CJ Stroud, on peut se poser des questions aussi. Mais sinon, globalement, voilà, défensivement, cette équipe a quand même fait le boulot depuis le début de l'année. Donc c'est sûr que ce sera, à mon sens, leur principal avantage pour espérer aller le plus loin possible cette saison.
Ils joueront donc les Lions au prochain tour et les Eagles, eux, sont en vacances. Buffalo Bills 31, Steelers 17. Les Bills ont commencé pied au plancher avec un 21-0. Puis ils ont laissé Pittsburgh revenir. Il y avait 24-17 dans le dernier quart. Mais Khalil Shakir a marqué un touchdown de 17 yards en échappant au placage pour assurer la victoire de son équipe. Buffalo a été porté par Josh Allen, évidemment, qui sort une fiche de 21-30 pour 203 yards, 3 touchdowns, 2 sacs encaissés. Et surtout, il gagne 74 yards au sol avec un touchdown, tout ça en 8 courses. Est-ce que Allez, je m'emballe un peu. Est-ce que Josh Allen est le meilleur quarterback des playoffs? Quand il joue comme ça
Intrinsèquement, c'est toujours discutable, mais en tout cas, au sortir de prestations comme ça, c'est sûr que contrairement à ce qu'on avait vu par exemple à Miami, il a été moins généreux. Voilà. C'est sûr que quand on a ce Josh Allen qui délivre toujours ce niveau de jeu et qui limite les pertes de balles, globalement, tu peux te dire que Buffalo peut être dans un bon match pour potentiellement y croire jusqu'au bout. Voilà. Si par contre, il commence à se tirer des balles dans le pied d'entrée, là, ça peut être un peu plus délicat. Il va falloir s'employer par la suite dans une conférence américaine qui va être très très disputée. Mais oui, là, il y a eu globalement très peu de fausses notes. Là encore, je trouve qu'ils sont quand même malgré tout tombés sur une défense un peu permissive. On aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà, c'est du Josh Allen dans le texte, c'est-à-dire minutieux à la passe, même si les stats sont pas extraordinaires. Et puis surtout, capable d'être précieux à la course, avec notamment ce touchdown de 52 yards qui met un gros coup sur la tête des Steelers au moment où il le fallait.
Raphaël, il a même été un peu moins dépendant de Stephon Diggs. Il n'y avait pas Gabriel Davis hein, sur ce match, mais il a vraiment bien distribué. Quoi. C'est le meilleur Josh Allen qu'on puisse avoir.
Oui, c'est clairement le meilleur Josh Allen que tu puisses avoir, effectivement avec pas mal de cibles différentes, et surtout Kincaid et Shakir qui finissent pas trop mal la saison pour le coup, les deux sont de plus en plus importants en termes d'impact et de réception, donc ça l'aide également. Non mais oui, tu l'as dit, c'est la meilleure version de Josh Allen, et c'est une version d'un tel niveau que une équipe, ça peut faire d'une équipe une équipe victorieuse au Super Bowl, ça paraît assez évident. Voilà, après attention, ce match aurait pu mal tourner parce qu'il laisse quand même Pittsburgh revenir malgré trois pertes de balles de Pittsburgh. Je trouve que ils ont presque trop tendu le bâton à un moment pour se faire battre ou en tout cas prendre de risques, donc va falloir le gommer parce que les adversaires autour d'après saisiront peut-être un peu plus leur chance que Pittsburgh. Et alors Terrell Bernard, j'ai plus en tête la blessure, mais c'est aussi pour la suite, ça peut être une blessure assez impactante au niveau de l'escouade de linebacker, d'autant plus qu'il y a quelques clients au poste de tight end à venir et même quelques coureurs à venir dans les semaines qui peuvent poser problème à cette défense. Donc très bon match de Josh Allen pour revenir là-dessus, mais on sent que cette équipe de Buffalo, je trouve, globalement, n'est pas encore au plein de son potentiel. Mais bon, c'est que mon avis.
Bah, c'est aussi un des problèmes. Hein. Terrell Bernard est sorti, Christian Benford et Taron Johnson dans le backfield aussi. C'est aussi malheureusement une des leçons du match. Grégory, je te vois hocher la tête, c'est qu'il passe, mais il y a eu un prix.
Ça, c'est toujours des victoires à la Pyrrhus en fait pour Buffalo, donc c'est ça qui est un peu problématique. Il me semble que même Baylon Spector, je crois, qui remplaçait numériquement Tyrell Dodson, se blesse également. Donc si ça commence à coincer aussi pour le remplaçant du remplaçant, même si on fait un petit peu des miracles à ce niveau-là du côté de Sean McDermott pour faire en sorte que cette défense reste assez homogène malgré tout, au bout d'un moment ça risque quand même de se payer, quoi. Si à chaque semaine tu perds 2-3 joueurs potentiellement au moment où le niveau s'élève constamment, c'est vraiment ce qui me pose un peu question sur cette équipe des Bills. Faut vraiment que tous les voyants soient au vert, notamment en attaque, parce que là encore, je fais que des scénarios catastrophes hein, aujourd'hui, mais je me dis, le jour où l'attaque est quand même plutôt bien contenue, cette défense, voilà, à force de jouer avec beaucoup de backup, elle peut vraiment finir par plier.
Après, c'est un peu une de leurs marques de fabrique de gagner au raccro et d'avoir des matchs où il faut s'arracher un peu à la fin depuis quelques semaines, et pourtant ils passent à chaque fois. Donc ça peut aussi être vu comme ça. Une des marques de fabrique aussi, c'est que le jeu au sol hein, continue de bien se réveiller. 179 yards à 5,3 yards par course. Alors on l'a dit, c'est bien aidé par la moyenne de Josh Allen, mais il y a une vraie volonté de courir avec James Cook notamment, et ça aussi, ça ressemble quand même à leur baromètre de fin de saison, Raphaël.
Oui, la progression.
Alors Grégory plutôt. Ah non, Raphaël, c'est bon, on l'a récupéré.
Non, mais allons sur Grégory alors.
Non, c'est parce qu'on t'avait perdu, j'attendais que ça vienne.
Mais effectivement, le jeu au sol et notamment James Cook hein, sont vraiment importants sur cette fin de saison. On l'a vu que ça a soulagé, notamment à un moment où le jeu aérien bloquait un peu avec un Stephon Diggs transparent et Kincaid et Shakir qui ne s'étaient pas encore totalement exprimés. Ça les aide. Là, la stat, bon, la stat au sol est un peu gonflée par cette énorme course de 56 yards sur une course de Josh Allen. La moyenne, disons, de gain est un peu plus faible si tu enlèves cette grosse course. Mais oui, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est utile pour Buffalo de pouvoir compter sur un jeu au sol, ne serait-ce pour que la défense adverse se focalise aussi dessus, épuiser la défense adverse, ce besoin de polyvalence et de pas être trop... et que ce soit plus difficile d'anticiper ce que tu vas proposer. Donc ça, c'est vraiment une des plus-values de cette fin de saison du côté de Buffalo. Ouais.
Bon, du côté de Pittsburgh, les Steelers reviennent notamment grâce à Diontae Johnson et Calvin Austin. Ils étaient à 4,6 yards par course. Il y a du positif. Ils avaient des cibles du jeu au sol, même si George Pickens n'est pas à son meilleur niveau. Est-ce qu'il a tout simplement manqué un quarterback, Grégory?
C'est un peu le problème. Je trouve pas que Mason Rudolph sur cette fin de saison est particulièrement déshonoré avec les armes qui sont les siennes. Maintenant, oui, forcément, c'est trop rédhibitoire pour faire en sorte que d'emmener cette équipe des Steelers plus loin. C'est vrai que c'est un peu triste à dire, mais ça fait un peu écho à ce qui s'est passé en dernière semaine de saison régulière à Baltimore. C'est qu'on a toujours cette sensation avec Pittsburgh, et malgré ce qu'arrive à mettre en place Mike Tomlin depuis maintenant plusieurs années, c'est que malheureusement on dit que cette équipe des Steelers ne peut gagner que de façon un petit peu moche, pour caricaturer un peu, en cadenassant peut-être beaucoup le jeu. Et malheureusement, sur un match où ils ont été trop permissifs d'entrée avec l'attaque de Buffalo, c'était compliqué derrière de suivre la distance, de partir sur du jeu aérien à outrance. On sait que in fine Mason Rudolph pourra avoir le petit jeu de trop qui va poser problème. Ça a été le cas avec l'interception de Kyler Elam. Donc voilà, on a essayé de compenser au mieux. De toute façon, je pense que le mal était beaucoup plus profond cette saison offensivement du côté de Pittsburgh. On a essayé de colmater comme on pouvait. Mais malheureusement, oui, pour répondre à ta question, offensivement, on se doutait que le quarterback serait une donnée un peu fatale à Pittsburgh durant ces playoffs.
Raphaël, Mason Rudolph, mais encore une fois, il y a du jeu au sol. Encore une fois, George Pickens c'est pas dedans, hein, mais
non, mais il est pas
avec un quoi, parce qu'il y a l'interception du début de match qui coûte très cher. Ouais. Avec un quarterback peut-être un peu plus affûté.
Je suis même pas sûr que ça aurait suffi, un quarterback plus affûté. Ça aurait aidé, mais Mason Rudolph, bon, on a vu un peu, il a effectivement ce plafond que tu décris et qui empêche de viser plus haut, c'est certain. Mais je pense que le problème de cette attaque va un peu au-delà d'un quarterback plus affûté, malgré tout. On a quand même un George Pickens qui est capable de quelques belles réceptions, mais qui commet souvent des erreurs. On a un jeu au sol qui est parfois utilisé, alors qui est bon, notamment sur ces dernières semaines, mais qui est parfois utilisé avec peut-être trop de parcimonie, alors que ça devrait être peut-être le point d'ancrage, d'autant plus quand Mason Rudolph est au centre du terrain, on va dire ça comme ça.
Mmh. Je pense aussi que t'as le fait de commencer à 21-0 qui conditionne beaucoup le truc.
Bien sûr, je suis
d'accord avec toi.
Ouais, ouais. Je suis un peu dur, j'avoue que je force un peu sur Mason Rudolph. Il y avait beaucoup d'autres choses dans cet effectif qu'on avait vu au fur et à mesure.
Moi je trouve c'est un effectif en attaque qui a plus d'un quarterback d'être bon, enfin d'être très bon, si tu veux. Il faut plus qu'un quarterback pour le rendre très bon, cet effectif, je pense. Mais et notamment en termes de coaching, à mon avis. Mais bon, ça après, ça, c'est qu'un avis. Ce n'est que mon avis.
Justement, en coaching, ça va être une des questions, mine de rien, parce que Mike Tomlin est toujours en positif, etc. Et pourtant, il y a ce que je trouve un peu étonnant, parce que mine de rien ils sont quand même en playoff, etc., mais il y a cette petite musique ces derniers jours de est-ce qu'il continuerait, pas continuer. Alors il arrive dans la dernière année de son contrat, est-ce que c'est vraiment une question? Moi j'ai pas l'impression, mais est-ce que c'était vraiment dans la réaction du moment qu'on a entendu ça?
En fait le souci, à mon sens, c'est pas les résultats en tant que tels de Mike Tomlin, bien entendu, qui sont pas à remettre en cause, ni le fait d'avoir réussi à atteindre les playoffs dans un contexte qui était tout sauf favorable aux Steelers, notamment en début de saison. C'est qu'en fait, t'as pas vraiment l'impression d'avoir une équipe qui progresse d'une année sur l'autre. T'as une équipe, en effet, qui va, avec ses armes, notamment défensives, être toujours au coude à coude et d'une année sur deux, on va dire, potentiellement tirer les marrons du feu, parce que le niveau sera tellement homogène que, à l'issue d'une grosse prestation défensive, ils arriveront à s'en sortir. Mais malheureusement, t'as pas l'impression d'avoir cet essor, on va dire, cette dynamique positive du côté de Pittsburgh, et c'est plus ça qui m'interroge. On en parlait tout à l'heure avec Philadelphie, mais en effet, on a déjà vu des coachs remercié avec des bilans assez honorables. Enfin, à mon sens, il n'avait pas la fiche d'un Mike Tomlin, mais tu prends historiquement le bilan d'un Lovie Smith, par exemple, à Chicago, qui n'a jamais déshonoré chez les Bears et qui, pour le coup, lui aussi, avait quand même pas mal de problèmes offensifs. Hein. Ça s'est moins ressenti à Pittsburgh parce que voilà, il y avait aussi Roethlisberger qui cachait un petit peu ça, qui gommait un petit peu ça offensivement. On voit que depuis son départ, bah, c'est quand même un peu plus criant. Et au bout d'un moment, du côté de Chicago, on a dit bah, on change de bord et puis on passe à autre chose. Et c'est pas forcément hyper concluant depuis. Mais en tout cas, il a fallu passer cette étape-là. Et c'est pas impossible, même si Mike Tomlin connaît plutôt bien Omar Khan, le general manager, qui était l'ancien assistant de Colbert, tu crois, du côté des Steelers. Même s'il connaît bien le general manager, au bout d'un moment, on peut quand même être tenté du côté de Pittsburgh de se dire bon. Avec tout le bon travail qu'a fait Mike Tomlin depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, bah peut-être qu'il est temps juste d'instaurer une nouvelle ère, un nouveau chapitre, un nouveau souffle nouveau à cette franchise. Et je pense que ce serait pas déshonorant. Je pense que déjà dans un premier temps, ce qui ferait du bien à Mike Tomlin, c'est peut-être d'être un peu moins dogmatique et de prendre des vraies décisions dans le secteur offensif, parce que ça fait des mois et des mois que les fans sont sur son dos par rapport à la nomination de Matt Canada en tant que coordinateur offensif. Et malheureusement, il a fallu attendre ce début de saison en eau de boudin pour que Mike Tomlin prenne des décisions. Ça peut rentrer en ligne de compte pour savoir concrètement est-ce qu'on a affaire à un head coach qui écoute un petit peu ce qui se passe autour de lui, qui prend conscience des situations et qui ne s'enferme pas dans une espèce de caricature de lui-même.
Raphaël, est-ce que tu lancerais une nouvelle ère ?
Oui, pourquoi pas. Okay. C'est toujours compliqué parce que forcément le saut dans l'inconnu quand t'as un coach qui te garantit un niveau, encore une fois, je vais utiliser la métaphore du plancher, mais qui te garantit un plancher de bon niveau, t'as pas forcément envie de faire ce saut dans l'inconnu. Maintenant, il me semble que la compétence d'un coach aussi, c'est de savoir s'entourer au niveau du coaching staff. Et ça fait trop longtemps que ça patine de ce côté-là, du côté de Pittsburgh. Et au bout d'un moment, se qualifier tous les ans en play-off, mais pour rien y faire, c'est pas non plus satisfaisant, en fait.
Leur dernière victoire en play-off, ça commence à remonter un petit peu, hein, si je me trompe pas.
Ouais, je vais te chercher ça, mais oui. J'allais te dire qu'en tout cas, c'est pas une équipe qui a l'habitude de changer de coach.
Bah non,
ils ont que trois coachs depuis 1969.
Non, mais ça c'est sûr. Donc ça va être quelque chose d'un peu dogmatique à potentiellement dépasser. Mais bon, des fois, il faut peut-être savoir aussi changer d'état d'esprit. Ça sera peut-être un pari perdant sur 2-3 années, le temps de trouver la bonne personne ou peut-être même un peu plus. Mais le fait est que cette équipe, elle progresse pas vraiment, en fait.
Ok, non mais c'est un parti pris intéressant. Leur dernière victoire en playoff, ça remonte au 15 juin 2017. Janvier.
Ah oui, d'accord.
Ça commence par un J aussi.
Oui, donc ça commence quand même à... Voilà.
Non mais il faut en voir, là vous avez vu pendant ce podcast, il y a une ou deux fois où j'ai perdu le fil parce que et là je change les mots, il y a un, il y a l'âge et deux, il y a le manque de sommeil, je crois que je commence à avoir des petites atteintes neuronales ou quelque chose comme ça. Donc oui, le 15 janvier 2017, c'était contre les Kansas City Chiefs, figurez-vous.
Ah oui, je me rappelle de ce match-là, oui.
Ok, bah alors là tu vois, moi je... Ah oui, c'était Alex Smith,
bon,
le quarterback des Chiefs.
Il n'y avait pas un 17-9 ou un... C'était un score bien vilain en plus à l'époque.
C'est un 18-16.
Ah, j'étais pas très très loin. En termes de points marqués, en tout cas, j'étais pas mal. Mais voilà, c'est un peu malheureusement à l'image de ces Steelers, comme je le disais. Voilà, faut prendre peu de points pour espérer passer.
Bon, en tout cas, on notera que Raphaël donc, est plutôt dans le camp du changement pour les Steelers. Et donc, du côté de Buffalo, on jouera les Chiefs lors du prochain match. C'est comme ça qu'on va terminer ce petit débrief, messieurs. Alors, on va pas faire totalement un segment news parce qu'on a été, on a déjà été assez long sur les matchs, mais quand même un petit truc avant de partir, avant de se dire au revoir. Il nous faut l'avis de Greg sur la rumeur Bill Belichick à Atlanta. Est-ce que Bill Belichick à Atlanta, c'est une bonne idée, Grégory?
je pense qu'il y a des pour, je pense qu'il y a des contre. Moi, la perspective qui m'effraie beaucoup, c'est que Belichick a rarement eu l'habitude de travailler avec un general manager qui n'est pas issu, on va dire, de son cercle de connaissances proches. Ça m'embêterait qu'on ne redonne pas une chance justement à Terry Fontenot, malgré l'échec de sa collaboration avec Arthur Smith, hein, en tout cas l'échec à court terme. Il y a quand même une équipe qui est en train d'être reconstruite, donc ça signifierait beaucoup de changements d'un coup, surtout pour un coach qui viendrait quand même à court terme. Parce que dans mon idée, c'est aussi le principal bémol, Bibliothèque ne vient pas pour 10 ans. Après, voilà, c'est sûr que ça changerait clairement la mentalité, je trouve, du côté d'Atlanta. avec quand même ce bémol là également que qui oppose le quarterback, parce que c'est ce qu'a signé sa fin de cycle du côté de New England, c'est malheureusement ce manque de renouvellement. On l'a répété, c'est vrai qu'on a fait en sorte de créer un casting à tour de premier choix de draft ces dernières années, d'avoir quelques joueurs intéressants offensivement, mais il faut toujours trouver le joueur qui leur lance le ballon, et ça c'est le principal bémol, et je ne suis pas sûr dans cette optique là que Bill Belichick soit le profil idoine. C'est pas mon favori, si je réponds plus clairement à ta question.
Il me faut un truc tranché, Greg, ou du clash buzz.
Il est pas dans ma top list à moi, personnellement. Maintenant, comme Atlanta ne l'écoute pas ces dernières années, ce sera lui qui sera intronisé dans quelques jours.
N'oublie pas qu'il nous faut un truc très tranché pour les réseaux sociaux, genre Grégory Richard, deux points, ouvrez les guillemets. Bill Belichick, il est gaze. je veux pas de lui à Atlanta, tu vois. C'est vrai que tu disais c'est pour du court terme. A priori, si tu prends Bill Belichick, il faut quand même que tu aies un remplaçant qui soit prêt vraiment d'un jour à l'autre.
Après, ça peut me faire bizarre aussi, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu une défense élite à Atlanta. Donc peut-être que du jour au lendemain, le fait d'avoir une meilleure défense, ça pourrait m'effrayer. Mais bon.
Ça peut être l'avantage.
Il y a des points positifs et négatifs
d'avoir Bill Belichick.
Après, est-ce que Belichick veut vraiment aller dans une franchise où il y a pas de quarterback, quand on voit effectivement dans quelle situation le fait de ne pas avoir de quarterback l'a mis ces dernières saisons?
Alors, en tout cas, si je pose la question à Greg, c'était parce que justement Bill Belichick a passé son premier entretien d'embauche officiel avec les Falcons.
Donc,
il a l'air d'avoir un minimum d'intérêt.
Tu peux passer un entretien pour avoir un prix et aussi jouer avec.
Même que Belichick soit débarqué, c'était quand même dans les rumeurs depuis maintenant une bonne dizaine de jours que Atlanta allait potentiellement loucher sur lui s'il était disponible. Donc, en soi, qu'il ait été interviewé, c'est pas. Voilà, on n'est pas tombé de notre chaise, mais maintenant, ça dépend. Ça dépend jusqu'à où t'es prêt à aller pour aller chercher Belichick, comme je le disais, d'un point de vue organigramme. Après, les Falcons sont un top 10 de draft. S'ils veulent reconstruire avec un quarterback au premier tour, voire peut-être miser sur un quarterback vétéran style Cousins ou Wilson, avec toutes les problématiques que ça peut avoir.
On fait un package. Belichick et Wilson, c'est cadeau.
Bah, écoute, c'est pas possible, c'est pas un scénario que j'écarte. Je vais te dire honnêtement, c'est pas ce qui me paraît le plus farfelu à l'heure actuelle.
Eh ben, on verra ça éventuellement lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de l'épisode 716. On parle de la preview du Wild Card Weekend dans l'émission de demain. Ce sera Raoul Villeroy et Victor Roulier. Grégory Richard, ce sera avec Lucas Vola dans le match 6. Non, pas 6 play, W9. Oui, 18 semaines d'habitude. W9, donc vous aurez le San Francisco Green Bay dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Entre temps, il y aura le fauteuil. Le fauteuil, il est décalé. C'est vrai qu'il faut que je prévienne toute la semaine. Le fauteuil, il est décalé. On suit l'horaire des matchs. Donc, comme le premier match, il est à 21h dimanche, le fauteuil, il sera à 19h30. On fera 19h30 jusqu'à 21h. Et là, ce sera moi-même au micro. On remercie tous nos auditeurs. On vous remercie des. N'hésitez pas à laisser des étoiles, à laisser des commentaires, etc. sur les applis de podcast. Et on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a Tomasso, Maxou46, Simon, Mélanie et Destek qui sont ajoutés. Et je signale sur le site, il y a les bonnets TD Actu qui sont arrivés. Ils sont chez Brooklyn Fizz. Vous tapez Brooklyn Fizz dans Google au pire. Et vous allez sur leur site, vous allez voir, il y a des bonnets TD Actu et des packs tailgate où il y a le bonnet aussi. Merci à tous. L'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve très vite sur les ondes de TDA. Vous avez l'habitude maintenant. Générique de fin. Merci Grégory, merci Raphaël.
Un plaisir.
Et à bientôt. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.